J'allais pisser un coup sur ce cinéma pourri qui m'ennuie. Ah, j'en pouvais plus. Oh là là. Oh, quel film, mon Dieu. Ah, je suis coincé, j'arrive même plus. Quel navet, mon Dieu.
Excusez-moi, je peux pisser devant mon côté.
Vous êtes le bienvenu.
Vous vous rendez compte, en 88, pisser sur un cinéma?
Pisser sur un... Ah, ben, il le mérite.
Pourquoi, vous avez vu un bon film?
Une horreur. Non, une horreur qui m'a donné qu'une seule envie, c'est de sortir immédiatement.
Je suis pas d'accord avec vous, parce que on va tellement rarement au cinéma. Chez vous, quand il y a un mauvais film à la télé, vous pissez sur votre télé?
Non, mais je vais pisser pendant ce temps-là.
Oui, mais il faut pisser sur la télé. Là, vous pissez sur un cinéma. Vous vous rendez compte?
Oh, mais j'arriverai bien au stade où je pisserai dans le cinéma, de toute façon, au point où vont les choses.
Tony?
Ouais.
T'as vu ça? Il se passe la même chose dans le film.
Ah, t'inquiète, c'est de la merde, ce film.
J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'important.
C'est quand t'as dit il est 9h, c'est ça? C'est ça qui est important? C'est vrai, remarque, 9h, c'est assez important comme horaire, parce que c'est l'horreur d'aller dormir.
Remarque, une fois, je me souviens, il était couché vers minuit 10. Pourtant, moi, j'étais fatigué après.
Je passerai des jours, des nuits, des mois, s'il le faut. Mon Dieu de bordel de merde. Oh, tu m'en tailles. Tu m'en fous. Oh, je suis fou. Oh, ton cul, ton cul. C'est mon génie.
Je n'aimerais pas voir un film pour la première fois en vidéo ou à la télévision. On voit d'abord un film en salle. Cinéma et vidéo, c'est effectivement la différence entre un livre qu'on lit et un livre qu'on consulte. Pour moi, comme cinéphile, la vidéo bouleverse ma vie. Prenez Serenada 3 de Lubitsch, par exemple. Avant, s'il passait quelque part, j'y allais, sachant que je devrais attendre peut-être 2 ans avant de pouvoir le revoir. Depuis, il m'arrive de le visionner 3 fois dans la même semaine. Avoir un film en vidéo m'en donne une connaissance beaucoup plus intime. En tant que cinéphile, je suis un fanatique de la vidéo.
Claude Berry, citant les propos de François Truffaut.
Bonjour et bienvenue, vous êtes bien dans Le Cinéma est mort, l'émission de l'écrophile de Canal B. Et je ne suis pas Étienne Cadoret, mais je suis Thomas de En attendant Godard, El Commandante, que je remplace, donc je remplace avantageusement Étienne, qui a l'idée saugrenue aujourd'hui en cette belle journée d'être parti à la plage. Mais je suis en compagnie...
Ou au zoo, on ne sait pas. Hein.
Je suis en compagnie du docteur Moreau. Bonsoir.
Salut
Antonin.
Salut les kids.
Et nous sommes aussi en compagnie de Jules Topoc. Bonsoir Jules. Et
bonsoir à tout le monde.
Donc voilà, nous sommes très heureux d'être là. Nous sommes en presque direct live de la braderie Alphonse Guérin.
Pas encore branché sur la sono de la braderie.
Pas encore, mais ça viendra pour l'année prochaine, on y travaille. Et donc nous réitérons l'expérience que nous avions commencé il y a 2 ans à cette même braderie et qui a été refaite l'année passée. Donc comme nous avons des produits culturels de qualité, Jules, toi et moi, Antonin.
Surtout
donc,
Jules.
Voilà, surtout
temps,
Jules.
C'est pas dur parce qu'il a à peu près 10 DVD, que des trucs de qualité, alors que nous on en a 55 voilà.
Nous exposons et donc nous allons refaire donc ce qu'on avait fait les années précédentes, je disais, nous allons piocher dans nos bacs pour discuter de films divers et variés, des produits effectivement très variés en qualité et en temporalité. Hein. C'est vraiment un peu un genre de parcours de toute l'histoire du cinéma et de tous les
au
cinémas.
Moins ça.
Et de tous les cinémas. Et donc nous allons piocher de l'un à l'autre pour un peu discuter de films comme ça, au débeauté, mais toujours de manière savante.
Savante, c'est exactement le mot. Et je sais pas si on peut commencer directement.
On peut commencer à
s'est dit.
À brûle pour point, ouais.
Tu peux. Fais-moi un picking, Thomas.
Je te fais
un picking
de
comme,
DVD,
comme dans Combini, tu sais,
ah
je
oui,
sais pas, tu connais
ça.
Ce truc
oui, c'est sur Internet, ouais. Internet est sur ordinateur.
Dans un média émergent.
Alors Antonin, je vais commencer par vous prendre, écoutez, on va commencer par une petite facilité peut-être, je vais vous donner Tuerné de Oliver Stone.
Là là. Ah oui.
Ah.
Ah ouais ouais ouais. Ok, bah oui oui, bah non, mais film que j'ai sur ma liste de revisionnage
Natural Born Killers, essentiel de titre américain.
Ouais, Natural Born Killers, écrit par Tarantino. En fait, bah oui, ça va être compliqué parce que je l'ai pas revu depuis sa sortie. Je pense effectivement un film que déjà adolescent, bah j'avais pas trouvé ouf, et que bah je me dis à chaque fois il faudrait que je le revoie parce que c'était déjà un film qui paraissait
daté,
extrêmement stylisé, pas forcément daté mais une sorte de stylisation outrancière, mais comme c'était le cas de quelques cinéastes de cette époque-là et particulièrement Oliver Stone, mais il y avait aussi ça chez Tony Scott dans les mêmes années. Et c'est vrai que les films de Tony Scott, quand je les revois, je suis très très agréablement surpris. Et je n'ai pas jamais fait l'effort de revoir cette période d'Oliver Stone.
Mais Tony Scott, ça vieillit beaucoup mieux que Oliver Stone justement.
Ouais, bah justement parce que c'est vrai qu'il y a eu ça et il y a eu aussi ce film qu'on a failli passer d'ailleurs à l'Arvor, qui était L'Enfer du Dimanche,
ouais,
qui est aussi sur une sorte de stylisation avec un montage archi-cut,
mais qui est probablement un de ses meilleurs pour
très,
le coup
très très fou, voilà. Mais et Tuerné, bah voilà, je pense que en termes de discours, ou en tout cas de traitement de la thématique qui intéressait Stone à l'époque, du tout à l'image, de traitement
MTV,
médiatique et tout ça, je
la
pense
télé-réalité.
J'attends pas grand chose de ça, mais peut-être quelque chose d'un voilà, peut-être que c'est assez intéressant sur un autre point, j'en sais rien. Toujours est-il que je suis toujours halluciné à quel point ce film là qui était vraiment vendu comme un film culte autoprogrammé a quand même pas beaucoup d'existence, hein.
Non.
Pour notre génération, oui. Moi, j'entends très peu de gens plus jeunes que moi parler de Tuerné, un peu à la manière dont on peut parler encore de Fight Club, qui est sorti très peu de temps.
Ouais, qui est sorti deux ans après, je crois, quelque chose comme ça.
Donc voilà.
Donc Tuerné de Hearthstone, voilà. Merci Antonin, ça commence, on a les chapeaux de
oui.
Roue.
Alors, à moi de choisir un film à te soumettre, Thomas. qu'est-ce que je pourrais prendre ? Je vais prendre... T'as un film... Là, ça fait la troisième année qu'on fait ça. Donc, j'essaie de tomber sur un truc...
J'ai des nouveaux films. J'ai ramené de nouvelles choses avant.
Je vois ça. En fait, il y avait un truc qui m'intriguait. Je crois que c'est à toi. Parce que ça, c'est des films que je ne connais pas. Et c'est un double DVD, chose qui ne se fait plus du
oui.
tout. C'est
C'était
un
la
DVD
mode à l'époque.
Dans un beau boîtier amarré, je crois qu'on les appelle comme ça,
ouais.
Avec une double jaquette. Et c'est Baze Cat Ball avec Trey Parker et Matt Stone, donc l'équipe de South Park. Et Une Journée de Fou, un film de Omar Ziff avec Michael Keaton et Christopher Lloyd quand même. Donc beau cast à chaque fois.
Voilà, donc,
et qu'est-ce que c'est que ces films dont je crois je n'ai jamais entendu
alors,
parler.
Typiquement comédie milieu 90 avec des stars américaines. Enfin, en tout cas pour le premier, Une Journée de Fou, Michael Keaton. Et Christopher Lloyd, donc le Doc Brown de Retour vers le futur. Et l'autre, Basketball, j'avais surtout acheté les DVD pour celui-là, donc c'était les créateurs de South Park. Quand South Park venait juste de commencer, ils commençaient à avoir un peu une petite hype, ils avaient déjà fait leur premier film, Cannibal the Musical, tout ça. Et pour celui-là, ils étaient associés avec David Zucker, donc des As, Zucker, Abraham Zucker, mais qui suit les frères Zucker qui a viré complètement droitard, limite,
ouais,
feu complotiste.
Pour les partis républicains.
Exactement.
Hein, je crois.
Et donc, c'est un film que Trey Parker et Matt Stone ont écrit, dans lequel ils jouent les rôles principaux, où en fait ils inventent un jeu qui est un mélange de basket et de baseball et d'insultes. Donc c'est-à-dire que ça se joue sur la reproduction du terrain d'une maison, il y a un panier de basket, il y a un système de jeu incompréhensible, et en tout cas il faut désarçonner l'adversaire en disant le maximum d'insultes en fait pour qu'il rate genre son coup franc, son lancer donc et compagnie. Et apparemment ça s'est assez mal passé avec David Zucker, Trey Parker et puis Matt Stone parce qu'ils n'étaient pas du tout dans le même esprit. Zucker c'est vraiment on va dire école de l'humour absurde classique et compagnie comme ils ont fait avec les As avec Top Secret, et Trey Parker et Matt Stone avaient un truc beaucoup plus moderne et beaucoup plus contemporain, et ça s'est très mal passé entre les deux, c'est-à-dire que Stone et Parker n'ont eu de cesse d'avoir des mots très durs envers David Zucker, comme quoi c'était un gros trou du cul et un gros nul, et inversement, c'est-à-dire que
Zucker... C'est pas Jerry Zucker qui était con ?
Non,
parce que David Zucker, celui qui vient de mourir, c'est David Zucker.
Ouais, oui, c'est David Zucker. C'est lui qui était con, qui avait fait genre Christmas Carol, qui était une revisite néoconservatrice du conte de Dickens. Jerry Zucker, c'est celui qui a fait Lancelot, le premier chevalier avec Richard Gere.
Oui, ok.
Là, c'est pas le même. Non, c'était vraiment David qui a viré full comédie con et qui avait réalisé Scary Movie Movie 3 aussi. Et donc Basket Ball, c'est un bon exemple justement de mélange de deux générations en fait, entre des scénaristes comédiens et puis un metteur en scène, où en fait la sauce ne prend pas vraiment, même si le film garde encore de bons trucs en termes de réal, c'est hyper mou, mais en termes juste de pure van et puis de jeu d'acteur, c'est un truc qui fonctionne bien, mais qui est vraiment très marqué dans son époque, on va dire début milieu 90. Et pareil, dans mon souvenir qui est assez lointain de Une Journée de Fou, en fait c'est juste des acteurs de série A ou de, on va dire, des second rôles connus qui s'amusent à faire de la comédie qui est réalisée un peu comme à la télé, où c'est pas forcément génial, mais il y a toujours des bonnes saillies parce que tout le cast est cool, mais qui sont des films qui en tant que tels n'ont pas vraiment marqué non plus un jalon dans la comédie, quoi.
Et en fait je saute du, enfin je vais parler d'un film, je pense qui
tu passes de la coke à la lane,
du coke à la lane, à l'ananas. Et mais pour parler d'un, parce que ça m'évoquait en fait ces films là basés sur le sport, des sortes de parodies et tout ça, c'est un truc que j'ai découvert récemment et je pense que notre invité Jules Topoc pourra en parler. Un film que j'ai découvert et que toi je pense que tu as vu à sa sortie, c'était Tour de Pharmacie.
Ah oui, c'est génial.
Et en fait, non, ça te dit rien, toi.
En fait, c'est Andy Samberg qui a fait ça après les Lonely Island. Ils avaient fait, ouais, et après Autour des compagnies, ils avaient fait un premier mockumentaire, donc des faux documentaires qui étaient sur le tennis, sur une partie de tennis qui avait duré 7 jours. Ils avaient fait un an après, donc Tour de Pharmacie, qui, sur le Tour de France 1982, je crois, ils refaisaient le reportage comme à l'époque, avec des interviews aussi récentes où c'était John Cena en 1982 et en 2017, il était joué par Dolph Lundgren et compagnie, qui est un truc de 40 minutes. Qui est hyper drôle, il y a un casse de bâtard, il y a
moi c'est Louis le truc Forte, le plus drôle que j'ai vu Orlando dans Bloom. Les trois dernières années,
et c'est vraiment formidable, c'est, ouais. Ça date de 2020-2019, un truc comme ouais. Ça c'est très court, c'est hyper drôle, c'est extrêmement, mais alors extrêmement con,
très très con, avec des gens tout nus, vraiment, voilà, je pensais exactement. Que Jules, toi qui es très attentif à la culture américaine, tu as eu ça.
Bah, je te l'enverrai.
Je propose que que Thomas tu choisisses un petit DVD, toujours en direct de la braderie Alphonse Guérin, pour Jules.
T'as vraiment des merdes, toi, c'est parce que ça c'est nul.
Ça c'est Nos.
Les Invisibles.
Ça c'est un truc que j'ai chopé à Nos, Les Invisibles. J'ai chopé à 1€, je me suis dit je vais revendre ça à une braderie plus chère.
T'as vu ça, Jules ? Donc Innocence de Lucie Adzi Halilovic, son premier long métrage de commetteuse en scène, qui est quelqu'un qu'on a connu d'abord comme collaboratrice sur les films de Gaspard Noé, et qui a fait trois longs métrages et qui en sort un, je crois, prochainement d'ailleurs. Le dernier c'était Earwig il y a un an.
Eh bien, une cinéaste qui me laisse complètement amorphe à chaque fois. Je n'y trouve aucun intérêt. Il y a toujours une espèce d'effervescence dans le petit milieu pour se dire « Oh là là, ça y est, le nouveau Halilovic arrive ». Et ben, c'est le genre de cinéaste où je vois le film et je n'en garde rien du tout, à part peut-être un geste de cinéma. Donc là, Innocence avec... une petite bande de jeunes filles qui est un peu sournoisement filmée pour pouvoir faire croire qu'il y a un peu de d'érotisme dans
de subversion dans le film, ouais.
Et en fait je crois que c'est de mémoire, c'est quand même extrêmement sage et donc c'est à chaque fois très très plastique, mais je n'en retiens rien du tout. Donc Halilovic à chaque fois, tiens,
oh, et les badges, Antonin, excuse-nous, on est en direct, on est en train de vendre, voilà. Tu peux le prendre.
Et en fait, j'avais oublié, mais je vois au casting Cotillard, Hélène de Fougerolles. Ouais. Donc, et ben là, finalement, j'ai accepté mes mauvaises pioches que Lucille ouais. Halilovic.
Hélène de Fougerolles qui a un peu disparu maintenant, qui fait juste des séries pour des TF1. Séries télé, ouais.
Mais donc voilà, un plouf pour moi avec une cinéaste qui continue à briller dans les festivals, j'ai l'impression, mais qui brille un peu d'une aura que je ne comprends pas.
Alors, ouais. L'aura est très limitée en fait, hein, je pense. Hein, c'est vraiment une aura de cinéphile. Et je crois que son prochain film, il me semble, si je ne me trompe pas, que c'est avec Marion Cotillard, le prochain,
ouais,
celui qui va sortir. Irglas, c'est ça ?
Ouais.
Ouais. Mais en tout cas, elle attire en tout cas, évidemment, de par son aura festivalière, quelques grands noms. Moi, je partage un peu ton avis. C'est vrai que pour l'instant, j'attends le film où. Enfin, c'est typiquement le genre de cinéaste que tu as envie d'adorer, que tu adorerais adorer. Mais,
que tu aimerais
défendre.
L'instant,
pour l'instant, non, ça le fait pas.
Est-ce qu'on peut tirer le parasol vers moi ? Je suis pas de soleil. Tu vas t'amuser au montage après, hein, c'est ton problème. Hein.
Bon, bah, à moi de jouer hein, pour sortir un.
Non,
un film.
Jules te choisit un
oui,
film.
Jules. Exactement.
Tu vas finir de tirer le parasol.
On retirera ça.
Plein dedans, là. Allez. Top. Jules choisit un film pour Antonin. Oh là là. Hop.
Ah vache.
Putain, l'accident, le parasol est tombé.
Tu vois, Antonin, ça c'est un accident du réel. Ça par contre, tu peux le garder.
Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences.
Sans blague ! Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza ?
C'est à mon tour de choisir un film pour Antonin et je vais vraiment faire un truc un peu putassier et je vais choisir le film qui était sous mes yeux tout à l'heure et qui a disparu. En quoi ça, je viens de sortir Piège de cristal.
On est parti pour deux heures.
Die Hard 1. Et en quoi ce film reste encore et encore dans les tops universels du plus grand film d'action. Et est-ce que tu es amené à le revoir régulièrement ou qu'est-ce qui fait que toi aussi, peut-être, tu as ce film-là qui reste peut-être le parangon de l'action et est-ce que ça a vieilli et voilà, qu'est-ce qu'on en garde après des décennies.
J'ai l'impression, quand tu poses la question, que c'est narquois, genre que t'aimes plus le film.
C'est faux, moi je peux toujours le manger ouais, encore et ça. Encore. Okay. Non, c'est vraiment, parce que je m'interroge à chaque fois, ouais. Est-ce que le fait que ça revienne très souvent dans on va dire les tops où on en reparle énormément comme un film référence et qui a vraiment marqué et une génération de cinéastes et une génération de spectateurs et voilà, donc on a chacun peut-être un peu notre histoire avec Piège de cristal et bon voilà, c'est un peu facile comme
ouais, en fait
comme
c'est facile et difficile parce que par où commencer quoi, parce que après tu peux le commencer par un biais générationnel, effectivement pour nous c'est hyper important parce que c'est quand t'es né dans les années 80 et que tu découvres ça et que tu vois le film qui passe tous les ans à la télé et que tu te reportes à des magazines genre Télérama qui te mettent une petite T en te disant que bon c'est un divertissement honnête et que toi tu fais que de le regarder en disant c'est génial mais que tu ne sais pas pourquoi et que tu grandis un peu dans ta cinéphilie en voyant le film, en le revoyant, en disant mais en fait tout ce que tu apprends en termes de cinématographie voilà c'est vraiment, là il y a à peu près tout et c'est génial de bout en bout. Et c'est un film qui continue à accompagner, que tu effectivement, comme tu le disais, que tu regardes à peu près tous les ans, tout en à chaque fois le redécouvrant, je sais pas, mais en tout cas on est à chaque fois en étant ébloui par sa mise en scène quoi. Là dernièrement, moi on l'a repassé à la revoir et chaque fois tu le revois sur grand écran, tu te dis mais ouais c'est assez taré et
c'est imparable en fait comme truc.
C'est un film qui est qui a une science de la chorégraphie qui est complètement hallucinante où tu te dis mais il y a sa piste du génie un petit peu partout dans la mise en scène de l'espace quoi, effectivement où on se repère toujours où on peut être, qui a vraiment une façon de jouer avec le spectateur en mettant en place vraiment un univers, cette sorte de verticalité de tous les étages et où à chaque fois on sait tout à fait où on en est, qui a un aspect très ludique aussi là-dessus parce que il s'agit d'une sorte de jeu, hein. Il y a une sorte de jeu qui est fait. C'est d'ailleurs toujours étonnant quand on le revoit à quel point cette dimension ludique elle est presque intégrée parce qu'il y a des jeux de masques, des jeux de rôle où il y a des informations qui sont données qu'il ne faut au spectateur mais qu'il ne faut pas qu'elles soient données aux certains personnages où à chaque fois on est toujours, il y a une dimension, voilà, cette dimension ludique qui est très spectaculaire, marche à chaque fois. Et effectivement, c'est une sorte de prodige un peu cinématographique qui fait que ouais, le film est parfait de bout en bout. Après, on peut le prendre dans tous les sens, hein, ce film. C'est vrai que c'est hyper important. Moi, il y a toujours un truc qui m'a fasciné, c'est que c'est vraiment un film des années 80. Qui marque aussi une sorte de césure, c'est que c'est des gens qui se posent comme des terroristes qui attaquent, qui sont menés par Alan Rickman, font semblant d'être des attentats politiques et au final on se rend compte que tout ça c'est une sorte de simulation totale pour masquer un truc beaucoup plus gratuit qui est de choper de la thune,
c'est un simple braquage,
et en fait ça les fait bien marrer de se faire passer pour un truc très important et que ça marque quand même aussi un changement d'époque où le cinéma se dépolitise un petit peu, où le cinéma le cinéma d'action devient s'abstractise de plus en plus quoi, en fait où on va être juste là pour le plaisir de la belle action, du beau heister movie de faire un casse magnifique, et les implications politiques sont mises de côté. C'est vraiment ça amorce la dérive vers un truc un peu cartoon quoi.
Où en fait le cinéma réganien s'annule complètement parce que au lieu d'avoir un truc assez revanchard donc vraiment
de droite américaine. On vient juste pour du pur spectacle, totalement décorrélé de moindres enjeux politiques ou bien sociaux. Ouais.
Alors même qu'un des autres gros apports du film, c'est effectivement la corporalité de Bruce Willis, où, qui arrive après, où Schwarzenegger et Stallone ont déjà la main mise sur le truc, où Bruce Willis arrive avec une sorte de fragilité, avec ses idées géniales de genre un mec pieds nus dans une tour de verre avec du verre pilé partout, où le mec il souffre et ça devient au fur et à mesure où le fait qu'il souffre des pieds et tout ça est un enjeu de scénario aussi. Il a vraiment il porte en lui une souffrance physique, quoi. C'est pas non plus Schwarzenegger, c'est pas tous les héros de films d'action qui vont arriver après où il n'y a plus aucune implication, plus aucun réalisme, en tout cas organique là-dedans. Et le film est génial.
Je n'en attendais pas tant, c'est exactement ce que j'ai en tête aussi. Vraiment, ce truc-là est un monolithe.
Alors, à moi de jouer, et on est toujours en direct de la braille Alphonse Guérin. Là, on a Willy qui vient nous rejoindre.
Willy qui adorait.
Le président de 97 mm, organisateur de la convention cinéphile, pardon. Et à moi de jouer
pour, moi.
Pour prendre un film pour Thomas.
Ah, Le Boucher.
De Claude Chabrol.
Apparemment, les droits, notamment des films de la période genovaise, ont été débloqués, donc ils vont ressortir. Il y a une rétro à La Rochelle cette année. De toute la meilleure période en fait de Chabrol, années 70. Salut le jeune, il y a un jeune qui vient de nous
là,
passer.
J'ai un jeune
avec une fausse casquette Gucci
qui me dit vaguement quelque chose.
Non, c'est vrai, mes fesses Lucien. Donc c'est le fils du docteur Moreau là qui arnaque les gens. Il nous l'a dit tout à l'heure en plus.
Là, il a utilisé tout l'argent qui s'est fait pour s'acheter une casquette Gucci. J'ai complètement raté mon éducation.
Voilà. Donc Le Boucher de Claude Chabrol, qui est vraiment un de ses grands films de sa première partie de carrière, parce qu'il a une carrière tellement longue et une filmographie longue comme le bras entre les trucs télé et les trucs cinéma Chabrol, que c'est une sorte de jungle, c'est incroyable, mais toujours d'une qualité constante. Et Le Boucher, c'est avec Que la bête meurt, le film qu'il a vraiment installé comme étant un metteur en scène majeur dans le cadre du cinéma français. Et c'est vrai que j'ai revu il n'y a pas longtemps, donc qui met en scène un Jean-Yann avec Stéphane Audran, qui a rarement été aussi belle dedans. Elle est magnifique sur cette histoire terrible, très simple de polar presque rural, donc ça se passe en Dordogne, si je dis pas de bêtises.
Ouais, en Dordogne.
Qui est très simple et qui est vraiment magnifique sur une histoire d'amour un peu contrariée, donc entre un boucher, ancien soldat de la guerre d'Algérie, et l'institutrice du village, jouée par Stéphane Audran. Donc un film qui est très simple, qui fonctionne sur des ressorts de comédie romantique entre les deux, entre deux êtres qui ne sont pas du tout à l'aise, et mêlé avec un caractère de crime un vraiment sordide, mais presque un genre de fait divers dans lequel Chabrol s'insère parfaitement. Le film est visuellement extrêmement beau, c'est très bien mené, comme il sait le faire toujours extrêmement bien, parce que Chabrol, il a pu être critiqué comme étant un metteur en scène parfois un peu feignant, un peu plan-plan, ce qui est du bullshit total. C'est juste qu'il a une vraie mise en scène ultra classique qui paraît simple et qui paraît presque bête, alors qu'en fait elle est évidente. Et ce qui fait tout le talent et tout le génie de Chabrol, en fait, c'est que c'est un narrateur hors pair, et notamment dès qu'il va dans le milieu du polar et le milieu du crime, parce que c'est vraiment un très grand connaisseur du polar, que ce soit en cinéma ou en littérature, c'est quelqu'un qui mène admirablement sa barque. Et Le Boucher, ça reste presque 60 ans après, toujours, je trouve, un de ses plus beaux films, un pur chef-d'œuvre, qui pourtant est extrêmement simple et qui d'une pureté absolument limpide. Et, de toute façon, Claude Chabrol, pour moi, c'est le meilleur de la bande de la bande des cahiers qu'on fait des films. Ça reste le plus grand, ça reste le meilleur, c'est le meilleur narrateur, c'est le meilleur metteur en scène. Et clairement, humainement, ça a l'air d'être le mec le plus cool. Hein, parce que,
malgré ses amitiés d'extrême droite, tu veux dire?
Non, il était pote avec Le Pen avant que Le Pen ne parte pour la guerre d'Algérie, hein, sans le comprendre.
Je connais cette théorie.
Oui.
Non, moi je plus sois, et puis c'est vrai que c'est assez chouette de juste montrer ce DVD qui est un DVD qui est à chier. Enfin, je veux dire, le DVD.
La copie est dégueulasse.
La copie est dégueulasse. Et c'est vraiment la bonne nouvelle de cette année, c'est qu'enfin, le catalogue de toutes les films de Chabrol produits par André Genovès, qui était.
La
entre les mains on va d'un, dire, d'un mec très très chelou qui a manipulé même les fonds publics destinés à la restauration des films de Chabrol et les a mis
pour
dans ses poches.
La thune.
Donc ça fait au moins 15 ans que normalement, aux yeux des pouvoirs publics, les films de Chabrol sont restaurés, mais ils ne le sont pas. Et là, enfin, ils ont été restaurés, donc ils vont ressortir en salle d'abord
notamment,
et puis après en DVD.
Toute la période pompidolienne, c'est-à-dire les Noces Rouges.
Et c'est-à-dire,
Nada,
moi, pour moi, la meilleure période. Et notamment le duo, le fantastique duo de Chabrol, Yann, Que la bête meurt et Le Boucher qui sont pour moi mes préférés. Et les deux films là sont extraordinaires. Le Boucher, moi j'ai eu l'occasion de voir la nouvelle copie. Effectivement, c'est des films dont on avait presque oublié à quel point même plastiquement ils étaient beaux,
ils
dans leur usage de la couleur et tout ça. Et ça va être un vrai plaisir de redécouvrir ça. Et voilà. Après, ce qui est toujours étonnant, c'est que si vous tombez sur les DVD des éditions de Chabrol, notamment à notre stand à la Brière Fondière, achetez-les parce que c'est toujours les jaquettes les pires du monde. Et celle-ci, c'est pas la pire. Hein, parce que je me rappelle qu'à un moment, au fil des rééditions, c'était vraiment de pire en pire les jaquettes, parce que même les jaquettes, le mec était tellement ras, le mec qui détenait les droits, qui confiait à sa nana de faire les jaquettes sur Paint. Il y avait même des fautes d'orthographe,
c'est-à-dire que
et des détourages Paint tout pourris. Et
même les montages dégueulasses sont mieux que ça, quoi.
Exactement. Même Thomas pourrait devenir
éditeur. C'est pas dans ton bac qu'il est à moi, celui-là.
Merci. Donc, voilà. Thomas. Et on est rejoint pendant
nous
qu'on
avons
parlait.
Été rejoints par Erwan Caloré, qui n'a aucun rapport avec Willy Caloré. Erwan Caloré, donc de l'excellente émission En Attendant Godard.
Tout comme dans En Attendant Godard, il arrive toujours en retard.
Exactement, c'est vrai. Bonsoir Erwan.
Alors déjà, j'arrive pas en retard, j'avais pas donné d'heure. J'avais dit entre midi et deux.
Ça, c'est un peu facile.
Et bonjour tout le monde.
Est-ce que tu veux parler de cinéma, Erwan?
Ouais, éventuellement.
Eh ben écoute, Thomas, moi je te propose de prendre un film et puis
je prends un film au pif et t'en parles, docteur. Tu vois, c'est vraiment préparé cette émission. Hein, alors attendez, je cherche ça. Ah, j'ai le même, mais il est mieux mon édition de Charlie's Angel 2. Ah, tiens, tu vas nous parler de Redacted de Brian De Palma.
Ça, je peux faire, mais ça fait un petit moment que je ne l'ai pas vu, hein, Redacted.
Film de 2007.
Ouais, film de 2007, film mal aimé, si mes souvenirs sont bons.
Excellent film,
pourtant.
Qui
avait été considéré comme une grosse merde à sa sortie, mais parce qu'il s'inscrivait aussi dans une mode cinématographique qui a un petit peu dépéri, qui était le found footage, en fait.
C'est ça.
Et donc, comme le film de found footage, c'était essentiellement du petit film d'horreur et machin... Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des trucs intéressants, moi je trouve, dans cette période. Je trouve qu'il y a plein de films de found footage qui sont super bien. The Bay, par exemple, moi je suis un grand défenseur de The Bay de Barry Levinson. Et donc, du coup, de Redacted aussi, c'est-à-dire des mecs qui sont finalement des vieux de la vieille et qui se confrontent à un genre qui est plutôt un genre de Jones pour les Jones et qui est vraiment un genre d'exploit. Vraiment, enfin, le found footage, c'est même pas un genre, c'est une forme. Mais c'est vraiment une forme d'exploitation, quoi. C'est-à-dire que voilà, tu fais un Paranormal Activity, puis après t'en fais 6 derrière parce que ça coûte pas cher et que tu sais que tu rentreras dans tes frais, quoi.
Même Shyamalan, on l'a fait avec The Visit.
Voilà. Ouais, mais justement, mis dans les mains, et c'est comme n'importe quel mode cinématographique ou commercial, je veux dire, à partir du moment où tu mets ça entre les mains de quelqu'un, qui a 2-3 idées vaguement, quoi, sur le cinéma, ça peut produire des choses plus intéressantes.
Redacted, en l'occurrence, c'est un film sur la guerre en Irak. Voilà, la deuxième guerre en Irak.
Exactement, Redacted. Donc, c'est, alors, en gros, hein, c'est une histoire d'une espèce de brigade d'Américains. Et en fait, voilà, il y a un attentat. Et il y a des. Si mes souvenirs sont bons, ça fait un moment que je ne l'ai pas vu, même si c'est des
mesures. Une exaction, en fait.
Il y a une rétorsion, voilà. Il y a des mesures. Voilà, il y a. Donc des personnages assez antipathiques, très bas du front, derrière cette histoire qui finalement est un fait divers finalement assez comment dire, pas clean mais assez banal finalement quand on sait ce qui a
dans
plus,
le cadre de la guerre en Irak,
quand on sait ce qui a pu se passer en Irak et la manière dont les Américains ont pu se comporter, sachant qu'à mon avis probablement une partie des choses qu'on ne saura jamais, voilà, il y a aussi évidemment ce truc de De Palma derrière qui est de poser la question du regard que tu portes, c'est-à-dire à la fois le regard des terroristes sur les Américains, le regard des Américains sur les terroristes, et de montrer qu'en fait c'est des espèces de regards bouffis par la haine qui se rencontrent jamais, mais que nous on voit se rencontrer à l'intérieur du film et qui met en jeu la question de l'altérité, du regard sur l'autre tout simplement, et en bon De Palma qu'il est, la question de la médiatisation de la guerre et de la transformation de la guerre en spectacle par le biais d'Internet, Internet qui est encore naissant, enfin pas naissant, mais qui est encore en développement à l'époque et pas encore au point où il en est aujourd'hui, et je regrette beaucoup moi que De Palma fasse plus de films. parce que bah, franchement dans une société de réseaux sociaux, enfin ouais, il aurait des trucs à dire.
Après, il l'a fait dans son dernier film Domino justement où il essaie de s'emparer de ça.
Ouais, mais tu sens qu'il lui manque un scénariste qui sache.
Il manque de l'argent surtout.
Voilà, de l'argent et un scénariste probablement qui sache voilà manipuler ça. Donc Redacted, film, moi je trouve film pas marrant, film assez dépressif et assez déprimant.
Faussement mineur. Hein.
Faussement mineur, mais par contre moi je trouve hyper cohérent avec le reste de Palma quoi et cette question. C'est vraiment cette question du regard, quoi, et du regard sur l'autre et de comment tu transformes le regard en spectacle et le spectacle en politique et comment tout ça se mélange.
Et comment le regard se transforme par l'image.
Exactement.
Enfin, donc, par l'image manquante, qui est son gros truc.
Donc, c'est un film avec un dispositif relativement réduit, mais qui finalement brasse quand même des thèmes de Palmien qu'il occupe depuis le début de sa carrière, quoi, et qu'il a réussi, je trouve, là, à réactualiser à travers la forme du fan footage. Même si pour des spectateurs d'aujourd'hui qui n'ont pas forcément connu cette mode-là, le film peut sembler avoir une patine années 2000 qui peut paraître au premier plan un peu vieilli ou désuète, alors qu'à mon avis c'est aussi un film de son époque qui est justement vachement bien
de son cinéma. Ouais,
je exactement. Pense que c'est un film qui sera redécouvert dans les années à venir, en tout cas je l'espère.
Merci docteur. Il
n'y a pas de quoi. Pour ajouter un truc, c'est que c'est marrant parce que De Palma c'est presque une reprise de sa début de carrière, quoi. C'est que De Palma, c'est vraiment le contrebandier par excellence qui a quand même officié dans le cinéma de genre d'exploitation, qui a réussi à immiscer ses interrogations sur le regard et l'image dans du spectacle. Mmh. Et là, le spectacle est relativement absent, quoi. Et alors que même dans Domino, que je n'ai toujours pas vu, il y a quand même cette volonté d'être dans un thriller et tout ça, peut-être d'y insérer ces trucs, mais de Redacted, on est presque dans un film qui peut plus correspondre à la première période de De Palma, de High Mom, qui est vachement plus réflexive, oui, vachement plus des films du cinéma d'installation.
Plus comme Blowout, en fait. C'est-à-dire
même Blowout est aussi un thriller. Moi j'ai vu Blowout à 12 ans, j'ai pas du tout vu les implications.
Alors que quand tu le revois maintenant, tu te rends compte que c'est essentiellement un film avec un mec qui écoute des magnétophones. Un peu comme Conversation Secrète, qui est une espèce de film anti-spectaculaire.
Sont des monuments de cinéma théorique, complètement. Mais au premier degré de spectacle, ça marche complètement.
Parce qu'il y a la scène finale aussi, parce qu'il y a toute la dernière demi-heure.
Parce que c'est hyper émouvant. Parce que
il rajoute du sentiment là où justement
c'est cérébral.
Là où dans un Conversation Secrète, au contraire, c'est très sec. Mais là, il y a un peu ce côté-là, en fait, ce côté. Et il arrive en plus à pas tomber dans le film à thèse. Moi, c'est ce que j'aime bien dans Redacted, c'est un film sur la question du regard, mais au bout d'un moment, il te dit pas qui doit regarder de quelle façon. Voilà. Et c'est assez, ça reste assez intéressant chez De Palma de voir ça, quoi.
Bien sûr. Où en est-on, Thomas?
C'est moi qui vais choisir pour Jules. Merci Erwan. Et donc, je vais choisir pour Jules. Je serais presque tenté de faire un double programme sur réalisateur français Cancel. Alors. Je vais proposer à Jules Préparez vos mouchoirs de Bertrand Blier et Noces blanches de Jean-Claude Brissot. Alors, qu'est-ce que tu peux lui dire sur ces deux cinéastes majeurs français qui ont eu une importance relative en termes de box-office? Blier, c'était assez important. Brissot, beaucoup plus confidentiel. Mais deux
blanches, c'était un carton.
Oui, qu'est-ce qui est son plus gros carton? Et donc, deux cinéastes, on va dire, bien dans leur époque, dire bien vieux bonhomme de 60-70 ans et Berge, qui ont été très marquants pour leur époque, sur leur représentation des rapports sexuels entre des gens trop vieux pour des femmes trop jeunes, et qui ont été assez marquants. Et comment est-ce que maintenant ça peut être revu et revisité sans tomber dans le fait de « Ah putain, c'est vraiment dégueulasse !»
Alors, Brissot, il avait l'avantage d'avoir le physique de ce qu'il représentait et donc ce qu'il montrait à l'écran. C'est quand même assez gerbant, avant même qu'on soit au courant de toutes les mésaventures qu'il pouvait faire dans ses appartements privés. Donc voilà, pour rappel, il s'est fait condamner à plusieurs reprises pour attouchement et pour vraiment avoir une emprise sur des jeunes actrices, sur des moments de casting où il y avait les égarements et devoir pousser un petit peu ces actrices à vraiment se dénuder et à faire des actes quasiment pornographiques pour son bon plaisir. Quand tu regardes les films à nouveau, parce qu'il y a peu de temps encore, j'ai essayé de me relancer là-dedans, c'est vraiment quand même assez gerbant à voir, d'autant plus qu'il se met en scène et qu'il joue quasiment de ses procès, de pouvoir appuyer au fur et à mesure avec une esthétique AB production quand même de plus en plus poussée, où il est quasiment, on dirait qu'il est, c'est un peu le Jafar Panahi parisien, puisqu'il est presque assigné à résidence, il n'a plus le droit de sortir, et il invite quand même toujours et encore à trouver des actrices qui se complaisent dans ses vices. Donc vraiment,
qui ne connaissent pas son cinéma, qui tombe dans son
assez,
emprise.
C'est assez gerbant, et d'autant plus qu'il joue dans ses films et il se cache plus du tout, quoi. Vraiment, c'est vraiment avéré, du bon voilà, c'est comme ça que ça se passe et je peux toujours avoir une légitimité à pouvoir filmer
et les subventions. Mes
donc c'est quand même assez dégueulasse et c'est surtout très laid. La caméra DV des années 2000, elle est vraiment bien bien en place et
les titres des films. Les anges exterminateurs. Les
alors là, ça c'est au tout début et les derniers, tu vois, c'est tellement vague que moi je pourrais même pas te dire le nom des deux trois derniers films, mais vraiment une espèce d'impunité de filmer dans son appartement et à chaque fois vraiment c'est vice, on pourrait dire que peut-être les Rollins et tout ont pu avoir cette chose là aussi de pouvoir filmer leurs obsessions.
Ouais, mais Jean Rollin fonctionnait pas dans la même économie non plus. Il avait pas la même aura que Brissot par exemple. Rollin c'était vraiment de la série Z française, des films de vampires. Avec Alice Arno et compagnie.
Ouais. Oui, c'est vrai. Mais,
Jean Rollin, t'en fumes deux, comme on dit.
Mais, ouais. Mais là, il était temps que lui, c'est vraiment pas possible. Quoi. Et tu m'as dit, alors, le deuxième qui était un peu borderline aussi.
De Bertrand Blier, Préparez vos mouchoirs, le film qui a eu l'Oscar du meilleur film étranger en 1976, je crois, où justement un jeune homme de 10 ans a des relations avec une femme de 40.
Ça fait très longtemps que j'ai pas vu Carole celui-là. Lord,
avec Depardieu et Devers.
Mais c'est vrai que ça peut maintenant être problématique. Il y a eu voilà, le petit retentissement sur dire, alors d'autant plus si tu rajoutes la couche de Pardieu avec le parangon en dire encore et toujours ce petit mot là pour pouvoir dire que est-ce que ce serait possible de faire encore des films comme ça, une espèce de faux débat, mais vrai, les valseuses et l'enchaînement valseuse Calmos pendant je dirais peut-être il y a 20 ans c'était un monument de dire waouh, ça c'est vraiment l'incarnation de la France et de la liberté sexuelle. Et c'est vrai que quand tu regardes avec enfin, c'est comme si vraiment il y a eu un filtre qui s'était enlevé. Et quand tu vois la séquence dans le train des valseuses avec Brigitte Fosset, bah tu te dis bah ouais, bah là il y a quand même un gros problème. Alors que vraiment, c'est ça qui est assez fou et salvateur dans tout ce post-MeToo, c'est qu'il y a un filtre qui s'est complètement révélé. Et depuis encore peu de temps, tu revois des films qui t'ont construit dans ta vie de cinéphile et des films peut-être français surtout parce que quand même, des fois il y avait quand même des abominations où t'as regardé ça à 13 ans, t'as regardé ça à 18 ans, à 20, 25 et tout passait crème, tu disais ouais c'est ça la France, c'est ça le cinéma français et maintenant tu regardes ça à nouveau et tu dis bah non mais ouais c'est vraiment pas possible. Donc c'est comme si t'avais vraiment un bout de cerveau qui avait été révélé et donc voilà, je suis content d'avoir au moins vécu ça dans mon parcours de cinéphile, de me dire on a vécu un moment où d'un coup c'est comme à chaque fois c'est vraiment con mais c'est le parallèle que je fais qui est tout simple mais il y a un épisode de Mad Men où toute sa famille est en train de manger dans un parc avec vraiment un petit napperon et ils ont toute la bouffe et en fait ils terminent leur pique-nique où Don Draper se lève, il prend la nappe, bloup, il fait un gros coup, il laisse plein de merde partout dans le parc et il se barre. Et là tu te dis bah ouais, pour nous avec notre filtre et notre regard actuel, tu te dis bah tu jettes pas un mégot par terre. Et là en fait tu te dis bah non mais c'est pas possible, alors que en 50 c'était complètement légitime, ou alors comme de conduire une bagnole sans ceinture de sécurité. Là tu dis voilà, et ben j'ai l'impression que d'un coup on dit ah ben oui mais non c'est pas bien quand même de traiter les femmes comme ça. Et c'était une évidence, mais une évidence qui n'était pas une évidente pour tout le monde. Et je pense qu'avec Blier, et ben il n'est pas prêt de refaire une petite internationale de ressortie au cinéma ni une rétrospective, parce que là il est cramé quoi, c'est terminé.
Après, ça, c'est des films qui tournent, en tout cas qui sont en distribution depuis il y a deux ans dans les versions restaurées et compagnie, mais qui ne sont pas évidemment beaucoup pris en charge dans les salles de cinéma pour les raisons aussi
extra cinématographique, hein, on va dire.
Évidemment, mais bon, après, je suis assez d'accord avec toi, mais je sais que j'ai un gros souvenir d'avoir passé les valseuses en film du dimanche soir avec en attendant Godard, donc du coup à l'Arvor, et de pas avoir revu le film depuis longtemps et d'avoir été hyper marqué par cette scène de Brigitte Fosset, de me dire mais oh, c'est pas possible quoi, c'est vraiment la gênance totale quoi. Mais ceci dit, après les valseuses, j'avais pas passé une séance affreuse. Les valseuses, c'est toujours un film que j'aime bien, mais qui est un film hyper problématique aussi pour plein de raisons. Alors moi, je sais que j'ai pas lu le... Il y a un truc qui m'intéresse vachement là-dedans, et je sais qu'on en parle vachement avec pas mal de gens. C'est Les Valseuses, moi, c'est un film que je peux toujours aimer, mais sur lequel où je suis un peu schizophrène, c'est que je me dis il y a un vrai discours dans Les Valseuses. Intellectuellement, on peut tout à fait valider le truc parce que c'est vraiment un portrait de deux mecs qui sont atroces. Et clairement, le film ne fait pas ce mystère de ça. Les mecs sont vraiment en perdition totale et se comportent comme des merdes. Et le film, intellectuellement en tout cas, on ne peut être. Il est sans embâche là-dessus. Les mecs sont des tarés. Sauf que, en fait, le problème, et c'est un des problèmes qui est propre au cinéma aussi, sauf que les deux types sont incarnés par Dewar et Depardieu, qui sont les mecs les plus charismatiques du monde. Ce qui fait que je pense qu'il y a une sorte de malentendu, c'est-à-dire qu'on regarde les valseuses, et les mecs sont tellement géniaux, alors pour Depardieu ça va poser problème maintenant, pour plein de gens avec le regard maintenant, mais les mecs sont tellement charismatiques que ce discours intellectuel du scénario et compagnie est passé complètement à la trappe. Je serais assez curieux de lire le bouquin, par exemple, de Blier, parce que c'est une adaptation, c'est une chose qui est très peu sue au final, mais c'est une adaptation d'un bouquin.
Le bouquin est pas mal, c'est vraiment le même truc. Hein.
Mais qui finit par exemple mal, par exemple.
Oui, par la
valseuse finit de façon un petit peu pas joyeuse mais en tout cas sereine, alors que le bouquin finit par la mort des deux protagonistes.
Comme
un truc vraiment sans embâche, genre c'est nos futurs quoi. Alors que les valseuses est pris, il y a quand même cette sorte de
légèreté,
de trucs que ça peut générer, genre c'est le cinéma post 68, c'est la liberté sexuelle et tout ça. Alors tu dis mais pas du tout. Mais il y a quand même ce truc hédoniste que où les mecs sont tellement charismatiques, et ben ça glisse quoi. Et je pense que c'est un truc qu'on pourrait appliquer à pas mal de films de ces années-là. Moi, Galette de Pont-Aven, je trouve que c'est un meilleur film que Les Valseuses. Mais Les Galettes de Pont-Aven, je pense que ce qui fait obstruction à moi, ce que je vois dans Les Galettes de Pont-Aven, qui est un gros mélodrame très très triste sur la tristesse du désir masculin, c'est la gouaille de Marielle. Marielle est tellement charismatique, tellement drôle, que tu ne peux qu'adhérer au personnage, alors même que le film, dans son trajet rationnel, c'est un procès en charge contre le type quoi. Mais Marielle est extraordinaire, donc ça glisse en fait.
Mais je reviens sur Depardieu dans Les Valseuses. À l'époque où il a casté pour le film, Blier, il disait que c'était en fait un physique, une gueule, une manière de jouer qu'on n'avait pas l'habitude de voir dans le cinéma français dans les premiers rôles. Il disait que à l'époque de Depardieu, le mettre en premier rôle, c'était comme balancer de la merde à la gueule des gens. Ouais. Maintenant, il a pris une aura incroyable après, mais à l'époque, c'était un physique particulier et un jeu aussi qui n'était pas comme ses aînés. Quoi.
Ouais, ouais.
C'est pas Michel Serrault, donc c'était vraiment aussi un truc vraiment violent à balancer. Ouais.
Mais ça, c'est génial. Ça, c'est vraiment un truc de regard, de comment ça vieillit notre regard, comment le regard à l'époque où ça devait être hallucinant de voir
Depardieu. Parce qu'il a un jeu extrêmement moderne.
À une époque, à l'écran. Maintenant, ça l'est aussi. Mais pour d'autres raisons. Et alors que depuis 30 ans, entre ce moment-là et l'autre, Depardieu, c'était une évidence.
C'est le patron.
Et c'était
quoi.
Vraiment un truc, un plaisir, juste un véhicule de plaisir total. Quoi. Et maintenant, ça a changé. Et c'est vraiment très étonnant, comme quoi vraiment les films, c'est vraiment, elles n'existent que dans le regard de ceux qui les regardent. Quoi. Vraiment,
comme
c'est,
disait François. Très bien. Merci Jules Topoc. Merci Antonin. Donc Jules, tu choisis pour Antonin ?
Allez, je vais choisir dans mon bac à moi et j'aimerais avoir l'avis sur l'éternel malheureux ronchon du cinéma. J'ai en l'occurrence dans les mains un DVD de The Lost City of Z de James Gray, qui est le classique, qui à chaque interview se désole de l'état du cinéma, de l'état de l'Amérique, de l'état du monde. Donc voilà, au-delà de ce film, un petit point sur James Gray.
Ouais, après on en a beaucoup parlé nous dans notre émission et donc je vais sûrement me répéter et tout, mais c'est moi c'est des films où les films de James Gray où à chaque fois je suis déçu la première fois je les vois quasiment où soit je trouve ça génial et la deuxième fois je me dis c'est nul, ou soit je suis déçu et puis je les revois je me dis en fait c'est pas si mal que ça. Je pense que c'est vraiment un truc de génération aussi, c'est que on doit avoir quasiment le même âge avec James Gray ou à 5 ans de différence, un truc comme ça. Et c'est et en fait, je vois un mec qui est un vrai cinéphile et qui fait des films un peu à l'image des films qu'il a vus dans son enfance, qui sont aussi les films que moi j'ai vus et que j'ai adoré, et que j'ai quand même quelqu'un qui a fait sa carrière en essayant de partir à la trace des films qu'il a aimés. Et Lost City of Z, c'est vraiment un cas d'école pour ça. Et moi, il y a toujours un truc où je vais dans Lost City of Z pour le grande référence de James Gray, c'est évidemment Coppola. Même beaucoup de ses films. La nuit nous appartient, il y a Le Parrain, dans deux, comment on appelle le film avec Joaquin Phoenix, Two Lovers. Il y a vraiment du Coppola à fond. Il y a du Coppola dans tous les films de James Gray. Et Lost City of Z, c'est évidemment son Apocalypse Now. C'est son moment où il veut partir dans les traces de Coppola, qui dans les traces aussi des cinéastes qui se disent je vais mettre mon talent démiurgique à l'épreuve de l'endroit le plus chaotique du monde, c'est-à-dire la jungle, et je vais faire mon grand film à la Aguirre, à la Apocalypse Now, à la Murnau, de tous ces mecs qui ont essayé de partir dans des endroits extrêmes pour tourner des films. Et ce qui m'hallucine à chaque fois que je revois le City of Z, ce qui est quand même un film que je peux revoir, c'est à quel point quand James Gray en parle, il dit c'est des conditions qui ont été catastrophiques, où tout le monde avait la fièvre et c'était affreux, tout le monde devenait fou, et à quel point c'est quelque chose qu'on peut très bien voir, ressentir quand tu regardes Apocalypse Now, quand tu regardes Aguirre, quand tu regardes certains d'autres films de cette école-là, des mecs qui vont dans la jungle, à quel point dans Lost City of Z ça se ressent jamais. À aucun moment dans Lost City of Z tu te dis putain les mecs ils ont douillé. Non, tu le ressens pareil, peut-être un petit peu intellectuellement ou dans le scénario parce que c'est indiqué, voilà, les personnages douillent, enfin en tout cas ils deviennent fous, mais la fièvre du tournage n'atteint jamais le film. Je ressors les grands auteurs, hein, c'était Rivette qui disait tous les grands films sont des documentaires sur leur propre tournage. C'est James Gray, jamais. C'est-à-dire qu'à chaque fois, tu dis, en tout cas dans ce film-là, à aucun moment tu ressens vraiment la douleur qu'a pu être le tournage. Donc c'est après il y a évidemment plein d'autres trucs à dire sur James Gray. Moi j'aime beaucoup son dernier film en date, hein, Armageddon Time. J'avais trouvé ça super, sûrement son film le plus directement autobiographique, et j'avais trouvé ça vraiment très beau, et un film en mode plus mineur, j'avais trouvé ça dingo. Mais c'est vrai que quand il adopte une grande forme hollywoodienne, ou quand il y a une sorte d'aspiration à un grand film du style La Nuit nous appartient, Le Parrain, ou The Yard, The Parrain, je trouve qu'il y a un truc où il y a lui-même, je sais pas ce qui se passe, mais en tout cas, je le sens complexé de tous les bords par sa cinéphilie, en fait, quoi. Et c'est, par contre, j'adore quand ces films sortent, parce que du coup, il va y avoir plein d'interviews de James Gray. Le mec est passionnant.
C'est toujours ça qui est
croustillant, quoi. Ouais. Et le mec est d'une aigreur qui correspond, en tout cas, à un mood que je peux avoir et qui me plaît bien. Et surtout qu'à chaque fois, c'est une aigreur qui est assez argumentée et compagnie, mais que je trouve quand même être, au bout du compte, une aigreur de quelqu'un qui est peut-être né trop tard, qui aurait dû, s'il était né 20 ans plus tôt, il aurait été dans les années 70, ça serait passé autrement. Il y a 40 ans, il aurait été dans les années 50, ça aurait été autrement. Mais je me dis quand même, il y a un mood chez lui où tu dis ah putain, ça doit pas aller fort, quoi. Ça doit pas vraiment aller
c'est
fort.
C'est ce qui transpire à chaque interview, en tout cas, quoi.
Et s'il allait pas fort et que ça allait dans ses films, et que ça rendait service au film, je sais pas, ça serait très bien. Mais j'ai l'impression qu'il va pas fort, mais que ça touche la forme des films et pas le mood du film. T'es pas touché par ce truc-là. Mais bon, un cinéaste hyper intéressant du moment, quoi.
À
moi de jouer, hein. Pour toi, bon, je prends le premier qui se
putain,
pose à moi.
Faire, en plus.
Les nerfs à vif. Cape Fear
de Martin Scorsese. Martin Scorsese, c'était un film à la base qui devait être fait par Spielberg, et pourtant c'est un film qui ressemble à un film de Brian De Palma. Ce qui est quand même assez étonnant, cette circulation entre cette bande de cinéastes et de bande de copains du Nouvel Hollywood. Donc Nerfs à Vif, c'est un remake d'un film de Jack Lee Thompson avec Gregory Peck et Robert Mitchum. Greg Peck fait un caméo dans le film, d'ailleurs, dans le rôle d'un juge, sur un personnage, Max Cady, incarné ici par Robert De Niro, qui va se venger du juge qui l'a emprisonné, qui est
de l'avocat,
je ne sais plus quoi, ouais, qui est incarné par Nick Nolte. Et donc il va fomenter sa vengeance, ce qui permet plusieurs choses pour Robert De Niro, qui joue le rôle du méchant, d'en faire des caisses et des caisses, mais alors comme un bâtard, justement, de jouer le méchant qui a plein de tatouages, qui rigole grassement, qui fume des cigares en cinéma, qui est extrêmement pervers, notamment dans une scène avec Juliette Lewis où il lui fait sucer son pouce.
J'ai eu ça en analyse de mise en scène en deuxième année
qui est une scène extrêmement perturbante et qui est un film très étonnant, qui n'est pas un film totalement réussi, mais effectivement, c'est des rares fois
où Martin Scorsese en fait se confronte sur le terrain des images au cinéma de son pote Brian De Palma, parce qu'on a vraiment un film de Brian De Palma dans la tonalité du film, dans le côté paranoïaque, dans le filmage même. Il y a un truc qui est très étonnant, un truc qui est très pervers en fait, qu'on trouve, enfin un niveau de perversité qu'on n'a pas notamment de manière habituelle dans le cinéma donc de Scorsese, ce qui est assez étonnant à voir. Ce qui fait que le film n'est pas totalement réussi, mais qui garde comme cette aura assez fascinante. De toute façon, tous ces cinéastes du Hollywood au début des années 90 sont... On a pas l'impression qu'ils sont en perte de vitesse et ils tentent de se renouveler avec des formes nouvelles. Donc c'est Scorsese avec Les Nerfs à Vif, Après le temps de l'innocence, qui sont des films quand même très très différents. Spielberg, fin 80, début 90, il fait L'Empire du Soleil, La Couleur Pourpre. Après, il part sur Schindler et Jurassic Park, qui sont pareil, sont deux films presque schizophrènes. Il y a Francis Ford Coppola qui continue en fait à faire ses films dans son coin avec Tucker et compagnie. Brian De Palma, après quelques échecs.
Je crois que même à l'époque, c'est plutôt Dracula Coppola.
Oui, c'est Dracula.
C'était déjà un truc un peu.
Un truc boursouflé, ouais. Justement, de reprise. Et Brian De Palma, à l'époque aussi, après Les Incorruptibles et 2-3 autres films, il revient vraiment comme le patron avec L'Impasse, le Carlito's Way, et L'Esprit de Cain aussi, qui est un film assez mésestimé, qui existe dans deux montages qui sont très intéressants, qui est un film vraiment étrange, très schizophrène, mais qui est un film de taré. Et c'est vrai que L'Esprit de Cain entretient pas mal de relations en fait, avec Les Nerfs à Vif sur cette paranoïa ultra violente que les deux mettent en scène, comme pour essayer en fait de reprendre possession de leur propre cinéma qui a été déjà à l'époque récupéré et ingurgité par toute une nouvelle génération de cinéastes qui sont très cinéphiles, justement, qui sera toute la génération des cinéastes postmodernistes des années 90, donc les Tarantino, les Kevin Williamson, je sais pas, les Robert Rodriguez,
même Cohen,
dans des genres extrêmement différents, mais qui vont reprendre le cinéma de leurs aînés. Les Nerfs à Vif, ouais, c'est presque une tentative, j'ai l'impression, d'un vieux qui se rend compte qu'il va devenir vraiment vieux et qui veut rattraper le temps, et enfin qui veut rattraper l'époque plutôt, et se mettre à un cinéma beaucoup plus brutal, beaucoup plus vulgaire finalement. Parce que autant la vulgarité, c'est un truc qui est vraiment présent dans le cinéma de Brian De Palma, il en fait une œuvre absolument merveilleuse. Mais chez Martin Scorsese, la vulgarité, c'est quand même beaucoup moins son truc. C'est un cinéaste qui est vraiment beaucoup plus chrétien italien. Il y a vraiment empreint d'un truc presque du sacré dans son cinéma. Et là, avec ça, là-dedans, il part dans un truc vulgaire, un truc méchant, un truc sale, un truc qui pue, et surtout un truc qui pue le cul. Ce qui est quand même aussi pas vraiment commun dans son cinéma à lui, mais qui est vraiment beaucoup plus ce Brian De Palma, justement, quoi. Donc voilà, Les Nerfs à Vif, qui est, je pense, un film à revoir, qui est pas un des meilleurs Martin Scorsese, mais qui est un film vraiment beaucoup trop chul dans sa filmographie.
Mais qui est bizarrement, il fait partie de ces films aussi qui vieillissent bien, c'est-à-dire en fait ils n'ont pas bougé. En fait, j'étais
déjà à moitié ringard à l'époque.
Ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, un peu comme le Dracula de Coppola, c'est que tu pouvais te dire en fait c'est des films où je sais pas non plus complètement contemporain de leur sortie, mais tu disais oh là là c'est beaucoup trop, ça va vieillir tout ça. Mais en fait non, c'est vraiment des films qui sont hors sol par rapport à leur époque, ça, qui sont pas du tout, qui sacrifient rien à la mode de l'époque. C'est des trucs qui poussent les potards à fond en termes de mise en scène et tout ça, mais qui poussent les potards à fond en termes de mise en scène sur une mise en scène un peu classique et tout. Et ça, en fait, tu les regardes maintenant comme au premier temps. Tu dis c'est n'importe quoi,
ça ne bouge
mais
pas.
C'est un peu cool et c'est généreux tout le temps et ça le fait, quoi, vraiment. C'est ouais.
It's not fair! It's not fair! All my life, I've been afraid of becoming like him. All my life with you, and it's not fair. You can't just say sorry and make it all go away. It's too late. It's not that easy. It's not fair. It's not fucking fair. Oh, Dad. Oh, God. He can't do that.
Nous sommes toujours à la braderie Alphonse Guérin, ici à Rennes, en ce dimanche 15 mai, 14 mai, on ne sait plus vraiment, qui de toute façon, au moment où vous l'écouterez, sera terminé, puisque nous sommes en direct différé, donc toujours en compagnie du docteur Moreau. Bonsoir Antonin.
Rebonsoir,
et rebonsoir Jules Topoc.
Salam alaikum.
Mais nous avons aussi deux nouveaux invités qui nous ont rejoints, et pas des moindres, après le docteur Erwan Caloret, de nouveau, estimés invités de cette excellente émission En attendant Godard tous les mardis à 19h sur Syllab.
Ils sont pas dedans, hein. Ils sont en train de discuter. Ils sont en train de discuter. Mais donc, Simon, Erwan, venez au micro.
Venez ici, nous avons,
venez dire bonjour.
Nous avons à nos côtés Erwan Fauré, le grand timonier. Bonsoir Erwan.
Bonsoir messieurs.
Et nous avons également Simon Danilou. Bonsoir Simon.
Bonsoir à toutes et tous.
Et donc nous avons réquisitionné pour notre picking et pour les faire parler des films des uns et des autres. Et donc nous allons commencer par Simon. Et Simon, j'aimerais te faire parler de 7h58 ce matin-là de Sidney Lumet. Qui est, je crois, enfin, tu peux parler de Lumet au sens large si tu veux, mais qui, si je dis pas de conneries, est le dernier film de Lumet.
Oui. Ah, mais c'est dingue que tu choisisses ce film-là parce que j'ai détesté ce film.
C'est très bien. Il nous faut aussi un peu de haine.
J'aime beaucoup Lumet, mais je le connais pas plus que ça non plus. C'est en tant que simple spectateur. C'est son dernier, hein,
c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais.
J'en attendais quand même pas mal. Il avait été relativement bien reçu en France, il me semble. Mm. Et je ne sais pas, je suis complètement passé à côté. Je l'avais trouvé trop mélodramatique, on va dire. Un peu en surjeu.
Donc Étienne n'est pas là. Hein.
Donc, non, vraiment, là, je crois que t'es à la fois mal et bien tombé. Je vais pas être très pertinent. C'est un film qui a un très beau casting.
Il y a Philippe Seymour Hoffman, ouais.
Ethan Hawke, Albert Finney.
Ah oui, Marisa Tomei dedans, ouais.
Et donc, des acteurs quand même d'un certain calibre. Mais j'ai là pour le coup, oui, j'avais trouvé le scénario un petit peu trop écrit peut-être, et puis l'esthétique. Bon, on parle de Lumet comme venant de la télévision, c'est pas du tout quelque chose je trouve qui caractérise ensuite son cinéma, si ce n'est dans l'efficacité de sa mise en scène. Mais là, j'avais ressenti quelque chose d'un peu téléfilmesque, mais c'était évidemment beaucoup plus tard après sa période télévisuelle.
Est-ce que c'était aussi un peu le cas de ses derniers films, comme Jugez-moi coupable aussi, il y avait un peu ça.
Que je n'ai pas vu, donc je.
Excellent Vin Diesel.
Prononcer. Donc là, t'es mal tombé. Tu veux pas qu'on parle de De Palma plutôt?
Ah voilà. Vous avez déjà parlé. Écoute, justement, fatale, le prochain Mission Impossible sort bientôt, donc Mission Impossible le premier, si tu veux. Ou Femme Fatale.
Non, écoute, là, j'ai Femme Fatale.
Allez, vas-y.
Parce que Mission Impossible, c'est le premier est formidable, mais t'as un studio, tu as un scénariste assez orienté sur la question. Là où j'aime aussi beaucoup De Palma, c'est quand sur Femme Fatale, sur l'esprit de Cain, sur Passion, il est tout seul aux commandes du scénario. Et donc, c'est délirant. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un pour
le tienne un peu, ouais.
En théorie. Mais du coup, c'est du De Palma. C'est du Palma pur et dur, en fait. Tu vois les idées, l'exécution aussi. C'est des idées de cinéma. De là à ce que ça fasse un scénario cohérent, c'est une autre question. Mais en fait, ça trouve sa propre cohérence dans la façon qu'il a d'agencer ses idées, qui l'ont fait tenir, en fait, qui l'ont motivé à réunir ses comédiens et à mettre en place des dispositifs, en fait. Dispositions, des situations. Et notamment autour de cette église... c'est pas Montmartre, mais vers Belleville, je crois, de Femme Fatale, où il va jouer comme cela sur. Quand on va sur place, d'ailleurs, c'est assez fascinant de voir comment il a à la fois respecté la géographie des lieux et évidemment transformé les choses par son regard de cinéaste, avec le personnage de Banderas qui prend des photos depuis son balcon. Tout ça nous est montré en split screen. Au début, tu sais pas pourquoi, et puis au bout d'un moment, tu recomposes tout ça. Et c'est pour. Comme disent les Américains, mettre un éclair dans une bouteille, mettre en bouteille un éclair, l'instant fugitif qui va les marquer, puisque c'est ce que fait littéralement ce personnage de photographe que joue Banderas depuis son balcon, où il attend comme ça au-dessus de cette place qu'il mitraille avec son appareil photo, donc il crée une sorte de mosaïque photographique inspirée de l'artiste américain David Hockney, qui a fait ça d'ailleurs aussi avec des photos à Paris quand il était de passage. Mais il attend la pièce manquante, il attend la pièce qui va faire vraiment décoller sa mosaïque, et ça finira par venir sous la forme d'un reflet dans un objet qui se reflète dans des lunettes, qui se reflète dans un rétroviseur, et qui va organiser toute cette narration délirante qu'on a suivie pendant 2 heures et qui était juste pour atteindre ce petit éclair dans la bouteille que le photographe va finir par
prendre. Parce que le film avait été vu à l'époque, il sortait en 2001, si je ne dis pas de bêtises, vraiment comme un genre de De Palma qui revient sur son propre cinéma, qui fait un genre de best-of de lui-même, avec la reprise de mêmes motifs, de mêmes personnages et compagnie. Mais c'est un film qui, je trouve, pousse un peu plus son propre cinéma dans une vulgarité aussi qui est plus contemporaine, qui est beaucoup plus agressive que certains films d'avant, quoi.
Oui, alors cette vulgarité, là, on passe aussi par le jeu d'acteur, notamment français, parce qu'il y a une partie du cast qui est français. Peut-être que dans sa direction, il n'a pas pu être, il a avoir l'oreille aussi fine que ça pour être sûr de la justesse du jeu. Donc, ce qui crée un décalage parfois un peu étrange, mais je pense que ça participe de la façon qu'il a de portraiturer ces méchants, notamment, qui sont un peu too much. Mais ça fait partie du charme de ce délire un peu autour du film noir, du roman noir. Parce qu'en fait, on a affaire à un personnage qui se fantasme femme fatale, et c'est ça qui est du coup plaisant. Et ah oui, bien sûr, il faut parler de la séquence d'ouverture autour d'une variation du Boléro de Ravel pendant le Festival de Cannes, hein, cette saison, avec là aussi un jeu
la
mental sur...
Et cet écran où elle voit un extrait.
Alors ça commence dans une chambre d'hôtel cannoise où elle regarde effectivement Assurance sur la mort de Wilder. Ouais. Et elle se rêve ensuite femme fatale. Enfin, c'est ce qu'on va comprendre finalement. C'est, d'ailleurs, on peut noter qu'il a repris dans son dernier film Domino une scène qui se passe, mais cette fois d'attentat, qui se passe sur un tapis rouge à nouveau. Hein, ça revient. C'était pas à Cannes, je crois, cette fois, mais en tout cas, ça revient. Et on peut noter aussi un petit caméo de son frère. Parce que De Palma a deux frères qu'on comptait dans sa vie. Il a un frère ennemi, un peu, qui était un peu l'intello de la famille, qui réussissait tout, mais qui était un génie, finalement, qui s'est perdu lui-même. Donc De Palma a nourri un peu de sentiments, de complexe d'infériorité vis-à-vis de lui. Et puis finalement, c'est plutôt lui qui a une belle carrière. Et il a un autre frère, lui, plutôt plasticien, avec qui il s'est plutôt bien entendu. Parce que De Palma était très proche des arts plastiques au début, il a fait un film sur l'art, l'art optique, etc. Et son frère donc fait une apparition comme vigile pendant la scène de casse au début de Femme Fatale. Donc aussi un petit détail familial ici qu'on peut noter.
Je crois qu'on a notre émission spéciale De Palma.
Ouais,
bon.
Désolé, je suis parti.
Non, t'as complètement court-circuité l'émission, mais c'était parfait. Alors Simon, ça va être à toi de choisir un DVD que tu vas soumettre au grand Timothée, Timothée, le grand Timothée. Tu es le grand Timothée Erwan.
Ça te dirait un Ferrara, celui que tu veux.
Il va prendre Snake Eyes, tout ça pour encore tout ramener à De Palma, quoi. C'est incroyable.
Dangerous Game ou alors The Blackout, comme tu veux.
Allez, The Blackout, période cinéaste américain, Abel Ferrara, que vous connaissez ou qu'on connaît pour Bad Lieutenant, qu'on connaît pour The King of New York. On a d'ailleurs en ce moment notre Juliette Binoche qui est présidente du jury au Festival de Cannes. Et c'est vrai qu'il ne faut pas l'oublier qu'elle joue dans un film très très beau, moi, que je trouve, d'Abel Ferrara, qui est Marie. Et là, on est plutôt en 2004-2005, mais avec The Blackout, on est dans la grande période de De Palma, la période des années 90, à la fois très prolifique, période prolifique après Bad Lieutenant. Et donc, The Blackout, il se situe après Snake Eyes, qui est Dangerous Game, qui est un film pareil aussi assez singulier. C'est des films qui sont avec des castings souvent un peu étranges entre la France, les États-Unis, des coproductions, enfin toujours chez Ferrara, c'est la question de la coproduction avec l'Italie, la France, les États-Unis. On va retrouver ici Claudia Schiffer, Béatrice Dahl. Ce qui est très complexe avec The Blackout, c'est un film de Camé, encore un sujet cher à Ferrara, et Matthew Modine joue quelqu'un qui a littéralement eu un blackout. Et on travaille autour de ça. Et c'est aussi par le personnage de Dennis Hopper qui fait un film dans le film, une manière aussi de revoir Renoir, mais aussi le film de Cassavetes. Enfin, c'est vraiment, moi je trouve, c'est un film un peu qui a le. Quand on le regarde, en fait, on a un peu l'impression d'avoir pris quelque chose. Je trouve que dans la façon dont il monte ses films, comme d'habitude, il y a toujours une patine particulière. Et on est avec Matthew Modine dans ses délires, dans cette façon d'aller très très loin dans le cramé, quoi.
Dans mon souvenir, il y a un travail sur la matière filmique, la matière de l'image, la matière
sur
vidéo.
Sur impression, puisque du coup, Dennis Hopper utilise la caméra vidéo pour faire son film dans le film, qui est en plus une idée assez folle puisque c'est une histoire de un peu de télévision en direct qu'il est en train de faire, parce que c'est un tournage en direct, une espèce de... J'oublie toujours le film, ce film de Renoir sur la danse de French Cancan, en fait. On est à la fin, c'est French Cancan, ouais. Voilà. Donc franchement, The Blackout, il est à combien?
Ah bah, il est à 2 balles.
2 balles,
c'est un film à 2 balles.
Voilà. Ouais. Allez. Faut y aller.
Très belle édition de chez Film Office. En général, c'est un gage de qualité. Bah, paix à son âme parce qu'il vient de nous quitter, le patron de Film Office, je crois.
Ah, de Film Office, pardon. Ouais. J'ai eu peur.
Ouais, pas.
Ah, c'est surtout qu'en plus, ça me fait plaisir de parler de Ferrara en compagnie de gens qui l'ont interviewé.
Et tout à fait. Comme Antonin. Grand moment de notre vie.
Oui, quand même.
La belle Ferrara qui a comparé Etienne à Clint Eastwood. Hein.
Oui. Et à Matt Damon au final. Erwan, c'est quand même à toi de soumettre. Moi, c'est ça ?
Je sais pas, toi, on s'en
fout. Ouais, moi ou Thomas, en tout cas, là où ton inspiration te guidera, de nous soumettre un film.
Alors. Non, je crois que là, je vais être obligé de faire quelque chose. C'est un peu vicieux, mais j'aime bien de poser les choses vicieuses à Antonin. Non, on va parler de Colt 45.
Non, mais le problème, c'est qu'en fait, je crois qu'on a fait une émission l'année dernière et qu'on a déjà causé de ça.
Ça revient dans les bras d'oche.
Donc je pense que c'est mieux qu'on passe sur autre chose.
On passe sur autre chose.
Parce que dans mes souvenirs, on en a causé.
Alors. On va revenir à mon adolescence avec un film que j'aime beaucoup.
Oh là là. Ouais.
Les Experts.
Alors, ok, putain, c'est chaud. Hein,
j'aime
quand
beaucoup
même.
Ce
c'est
film.
Chaud. Ouais. C'est vraiment chaud. En plus, je l'ai vu il n'y a pas si longtemps que ça. Je l'ai revu il y a peut-être 10 ans. C'est pas, il n'y a pas si longtemps. À un certain âge, il y a 10 ans, c'est il n'y a pas si longtemps. Mais écoute, j'en ai déjà encore aucun souvenir. Non. C'est de Phil. Comment il s'appelle ? Phil Alden Robinson. Donc on est un peu dans cette catégorie de réalisateurs qui sont un peu comme Roger Spottiswoode, Roger Donaldson, voilà tous ces mecs qui opéraient dans un cinéma milieu de gamme états-unien et qui maintenant quand on revoit les films on se dit ah putain c'était quand même vachement bien de se taper tous ces films de qualité moyenne. Enfin je sais qu'en tout cas Les Experts, c'est typiquement le style de film que je peux me remater maintenant avec beaucoup de plaisir, mais qui correspondent à tous ces films américains milieu de gamme absolument pas mémorables, pas bons, mais pas mauvais non plus, et qui faisaient que le cinéma américain à un moment était le meilleur du monde parce que il avait une qualité moyenne absolument exemplaire. Et du coup, les films moyens, étaient la moyenne des films moyens, était plutôt bonne, contrairement à maintenant, où de toute façon, c'est complètement polarisé entre des films très très riches, pas bons du tout. Et puis d'ailleurs des films très très pauvres qui n'existent même plus du tout dans le cadre du cinéma américain. Donc j'ai pas grand chose à dire si ce n'est que... Alors en plus ça échappe malgré l'époque dans mes souvenirs à une sorte de ringardise de toute une époque où Internet commençait à exister. Il y a eu tout un truc avec traque sur Internet, avec harcèlement, avec une représentation d'Internet qui se voulait un petit peu d'anticipation et qui est complètement à côté de la plaque. Et dans mes souvenirs, ce film-là tenait un petit peu la route, mais ça reste un film avec Robert Redford. Et donc les films avec Robert Redford, c'est jamais vraiment très très bon.
Merci Antonin.
Je vais soumettre Jules à la. Je le soumets à la question. Je soumets Jules à un film exemplaire, mais je ne sais pas s'il l'aime, mais je sais qu'il aura plein de choses à dire dessus. Parce que Jules est l'auteur de la conférence Rocky, et je lui soumets Rocky Balboa.
Alors, Rocky Balboa. À l'époque, quand je l'ai vu, donc je reviens un peu en arrière, c'est 2007. Je suis encore un peu en colère parce que je lui dis vraiment il a sa franchise, il n'arrive pas à s'en sortir, il a deux franchises qu'il aurait dû qu'il a créé, Rambo, Rocky, et donc il a vraiment créé son industrie américaine et il revient après vraiment pour moi Rocky s'arrête à Rocky 4. Et ensuite, ça part ensuite. Et moi, je m'interdis de me dire que ça fait partie de cette saga. Et finalement, je me suis quand même un peu fait avoir avec le fait que Adrienne soit morte et qu'il passe un temps à être sur la tombe, avoir une chaise dans un arbre qui attend. Donc vraiment, il y a quand même un truc hyper prenant et surtout aussi le lien qu'il a toujours avec Polly, son beau-frère, qui est encore plus pathétique que lui, et vraiment il est encore plus ronchon. Donc voilà. Donc c'est un peu la vieillesse, c'est un peu nostalgique, c'est un peu le doudou, mais ça fonctionne toujours, en sachant que pour moi, Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3, Rocky 4, ça restera un pavé avec des films complètement différents à chaque fois, et juste ce personnage-là qui s'adapte à l'air du temps et au sens du vent en fonction de la politique américaine. Mais là, il n'y a que la deuxième fois à la revoyure, le Balboa m'a pris un petit peu quand même aux tripes. Alors c'est hyper nostalgique quand il va retourner dans la patinoire, quand il voit le rapport assez conflictuel avec son fils qui a tout fait pour pouvoir ne pas lui ressembler. Donc voilà, c'est encore et toujours le loser, le pauvre type qui a son petit restaurant. Après voilà, je me dis presque le pif-paf, la bagarre, le combat, ça sert pas à grand chose. Ça sert à peut-être lui faire prendre encore plus de testostérone et de produits illicites pour pouvoir garder la forme et rester au firmament à l'écran. Mais je pense que Rocky avec Rambo les films qui m'ont forgé Rocky 4 à 5 ans, je voudrais dire à tous les pères qu'il faut faire ça pour créer un véritable traumatisme et faire en sorte que leur fils puisse réussir dans la vie.
On peut même dire littéralement que t'as Rocky dans la peau.
J'ai Rocky dans la peau, j'ai retrouvé des dessins de moi en maternelle, ma dernière année de maternelle, où j'ai dessiné le combat de... Donc j'ai un dessin de Rocky avec Ivan Drago, donc forcément Rocky est bien plus grand qu'Ivan Drago. J'ai essayé de faire les plaquettes de chocolat, les abdominaux de Rocky, mais j'ai pas réussi, donc j'ai abandonné. Et Ivan Drago, j'ai vraiment bien réussi à maîtriser sa brosse à 5 ans, donc vraiment il faut voir Rocky à 5 ans et très vite.
Tu as retrouvé les dessins et tu les as tatoués.
Bah pas moi-même, toi, mais en tout cas, oui. Là, donc j'ai gardé une trace pour dire que Rocky est en moi.
Mais, à jamais.
Et Balboa sera toujours là. J'espère qu'en tout cas il aurait dû mourir beaucoup plus tôt, mais Stallone maintenant fait partie de la team avec
John Voight,
où là vraiment ils vont pouvoir changer la face du monde avec ce dictateur.
Merci Jules, bah, à toi de choisir un film pour moi.
Alors tu me prends dépourvu, donc on va faire une petite pause.
Il y a une belle image, c'est bien pour une exposition, mais pas pour un film. Un film, il doit avoir une image juste, précise, qui exprime vraiment, qui sert à exprimer ce qui est dans ce qui a raconté. Les images, aujourd'hui, c'est un peu une maladie générale que cette esthétique de publicité qui est dans la même façon dans la publicité que dans les films d'action, que dans les films d'amour, que dans les films n'importe quoi. Et c'est, à mon avis, c'est faux, naturellement, parce qu'il me manque le mot français. C'est un mensonge vis-à-vis de la réalité qui est traitée. Et si on traite par exemple un sujet assez grave, la souffrance de quelqu'un, et on filme la souffrance avec beauté, c'est même comme une chiffre vis-à-vis de la souffrance de celui-ci qui souffre. Et ça, c'est une question plutôt morale, mais morale esthétique.
Donc Jules, tu m'as sorti un film de Dario Fago, une petite comédie autrichienne.
Bah ouais, je voulais un côté un peu fun, il fait beau et c'est un film qu'on peut regarder presque à la plage. C'est un peu hein, les films d'été.
Donc c'est Caché de Michael Haneke, qui était prix de la meilleure mise en scène à Cannes 2005 et prix de la Fédération Internationale des Critiques de Films lors de ce même festival, donc il y a 20 ans déjà.
Continue à lire,
il y a 20 ans aussi European Film Award Berlin 2005, prix du meilleur film Réal, meilleur acteur pour auteur, meilleur monteur, prix de la critique. Et comme disait Zurban, un magazine qui n'existe plus, un suspense tendu et vertigineux, et Les Inrecuptibles, toujours dans les bons coups, probablement sous la plume de Jean-Marc Lalanne, Haneke réussit à installer et à maintenir une angoisse croissante. Donc voilà, film avec Auteuil et Binoche, deux acteurs que j'adore, et c'est un film que je n'ai pas vu, mais parce que de manière générale, Michael Haneke, j'ai dû voir 4-5 films, je pense, genre Le Temps du Loup, tout ça, Amour, et c'est Funny Game US et autrichien. C'est un réalisateur que, comment dire, j'exècre de manière générale, enfin qui vraiment me sort par tous les pores de la peau. Je n'ai jamais compris l'appétence qu'on peut avoir par son cinéma, qui est un cinéma hyper doloriste, ultra putassier et extrêmement complaisant, où en fait en permanence il va avoir un discours sur qui va vouloir dénoncer le voyeurisme, la violence, mais en prenant des atours ultra violents, ultra putassiers, ultra voyeuristes. Donc c'est-à-dire que sous le prétexte de vouloir les dénoncer, en fait il utilise les mêmes procédés mais sans les questionner pour en faire juste je trouve un truc réellement dégueulasse. Je pense que c'est quelqu'un qui moralement est quelqu'un d'assez ignoble. Je ne dis pas ça pour mettre en le peuple autrichien en défaut, hein, mais j'ai vraiment beaucoup de mal avec le cinéma.
C'est pas comme ça que tu vas réussir à vendre tes DVD. Hein. Je te rappelle qu'on est toujours à la braderie. Enfin, que l'objectif, c'est quand même de vendre les DVD.
Je te rappelle que c'est ton DVD.
Peut-être,
donc,
mais on fait corps dans ce stand-là.
On est une équipe.
Ouais, on est une équipe. Et voilà. Moi, j'ai pas revu ça depuis sa sortie, caché. Et après, j'aurais rien d'intéressant à dire dessus, mais je sais que j'avais à trouver ça extraordinaire.
Il y a quand même un truc sur Caché qui m'a toujours. Moi, j'aime pas trop non plus comme Thomas, pour un peu les mêmes raisons, et en même temps, un peu. Je suis beaucoup quand même la première trilogie, la trilogie, la glaciation. Ouais. Il y a quand même des films intéressants à ce moment-là. Mais sur Caché, il y a quand même quelque chose. Je sais pas s'il le dit dans les livres d'entretien, notamment avec Philippe Rouillet, mais Caché, enfin, ça part quand même du même principe que Lost Highway, David Lynch.
Et c'est vrai. Ouais.
C'est vrai que c'est quand même.
Il y a déjà un film un peu chiant. Hein.
Tu vas te calmer là, par contre. Et par contre, je voulais dire que en l'absence d'Étienne, il va falloir quand même lui soumettre à un moment donné ou à un autre The Substitute.
Ouais, mais il faut attendre que Étienne soit là. Parce que
c'est le rôle de sa vie, en fait. Hein. C'est Tom Berenger, en fait.
C'est ce pourquoi il est devenu assistant à l'éducation, en tout cas.
Voilà.
Merci. Donc, c'est à moi de vous. Je soumets à qui
Ah, bah, Erwan, je pense. Hein.
Juanito, alors qu'est-ce que je vais te mettre dans les pattes? Erwan. Mon ami, je sais que vous êtes un Michael Mannien devant l'éternel. Et film. Je me rappelle qu'on l'a fait à l'époque de sa sortie, réception un peu contrastée sur son caractère expérimental et presque révolutionnaire, qui est Le Public Ennemi de Michael Mann, où donc il continuait ses expérimentations autour de la caméra numérique après Collateral et après son chef-d'œuvre Miami Vice. Donc Le Public Ennemi, ce film toujours en demi-teinte, mais qui contient, je trouve, des choses intéressante sur cette esthétique numérique dans le cas d'un film historique.
Tout à fait, Thomas, ouais, je suis complètement d'accord avec ça. On en avait parlé à l'occasion de la sortie du livre de Jean-Baptiste Torres sur Michael Mann déjà. Mais c'est vrai que Public Enemies, c'est à le revoir. C'est vraiment ce côté, justement, comme tu l'as bien dit, hein, de la haute définition, l'aspect vraiment de la netteté et en même temps de voir justement l'aspect de reconstitution historique, mais surtout d'avoir des personnages en costume, mais comme si on était là avec eux, fait un décalage qui crée justement une dimension. Comment on pourrait dire ça? J'ai un peu
anti-romantique presque.
Oui, anti-romantique et de pousser, je dirais, les codes en fait de ce genre-là qu'il investit, c'est-à-dire à la fois voilà le film de gangster des années 30. On est vraiment dans la capture de ce criminel
John Dillinger.
De John Dillinger, quoi. Et il va évidemment, comme toujours, en fait, se servir des codes de ce genre-là pour aller loin dans ce qu'il cherche toujours, c'est à la fois retravailler l'histoire des États-Unis, notamment tout ce moment en fait où ce personnage de Dillinger, en fait, ce qui intéresse Mann, c'est quand même la construction du FBI en tant que structure fédérale de police, d'enquête. Et justement, ça va être les écoutes téléphoniques, ce standard, toutes ces images qu'on va avoir au long du film. Et aussi avec cette haute définition, toujours de capter les lumières, enfin en tout cas les basses lumières la nuit, et avec des séquences de fusillades où justement, ce qui va l'intéresser, c'est d'avoir les flashs en fait, des fusillades. Enfin, il y a quelque chose de ça.
C'est mortel. La scène de fusillade la nuit près de la cabane, aussi, elle est extrêmement belle. Hein.
Ce qui rejoint aussi Miami Vice, ça va être ce côté où Johnny Depp, le personnage de Johnny Depp et celui de Mario Cotillard se retrouvent complètement isolés sur une plage, mais comme s'ils étaient absolument seuls au monde. Enfin, voilà, il y a des moments d'abstraction, comme d'habitude, chez lui. C'est peut-être pas son meilleur film, évidemment, mais ça en fait quand même un film un peu comme peut-être Ali aussi, qui est d'une forme voilà, de biopic, de faux biopic. Enfin, voilà. Moi, c'est pour ça que j'aime bien Public Enemies. Ouais,
ouais, qui est un film étonnant, toujours dans sa filmo. Ouais. Merci beaucoup, Erwan. Et donc, donne un film à Antonin.
Je vais essayer de mieux choisir que tout à l'heure. On va essayer de lui faire quand même quelque chose dont on parlait tout à l'heure, un peu de la, ouais, du côté standard, du côté un peu facile. Non, quelque chose qui intéresse peut-être Antonin. Alors attendez, que je passe à ça.
J'allais être Coluche si tu veux.
Ouais, voilà. Antonin, je te passe The Grey, okay. En territoire,
le territoire des loups.
Ouais, film que j'ai pas revu depuis quelques temps quand même, et que j'ai beaucoup vu, que j'avais adoré découvrir au cinéma, de Joe Carnahan. Espoir un peu déçu hein, quand même. Hein, c'est bon, encore une fois, je reprends la ligne dont on parlait il y a peu sur ces cinéastes un peu mi-auteurs, mi-faiseurs, dont on désespère un petit peu d'avoir des nouvelles, ou en tout cas d'avoir une qualité un petit peu égale, et Joe Carnahan en fait vraiment partie. C'est une voix un peu intéressante qui est arrivée sur le territoire, surtout avec Narc, même s'il avait déjà fait un film auparavant, ouais. Et The Grey, donc film avec Liam Neeson, et qui... Bon, s'inscrit un petit peu dans la filmo de Liam Neeson aussi, post La Liste de Schindler et tout ça. Donc toute le truc très étrange hein, quand même de Liam Neeson, la carrière de Liam Neeson, où tu dis mais c'est fou en fait comment ce type-là, c'est que t'es quand même plutôt un acteur assez solide et pu quand même se spécialiser dans des trucs complètement à chier. Et donc The Grey,
c'est un peu rude.
Donc c'est pas un revenge movie à la Liam Neeson, mais il y a un petit peu ce truc-là de survival. Film, moi, que je trouve un peu extraordinaire quand même, et qui et là j'ai ma voisine qui arrive avec un micro et qui veut participer, et en fait alors, je finis, mais après on va avoir
après,
quand
on
même
en parlera, ouais.
Non, tu restes là Anida, parce que t'as là enfin il y a vraiment un film dont il faut parler, et c'est toi qui vas en parler hein, je te préviens hein. Après alors elle me tend Cyprien. Donc vous pouvez
avec
venir
Elysée
acheter
Moon.
Cyprien. Alors t'inquiète pas, reste là parce qu'on va en parler de Cyprien, parce que je pense que Thomas il a plein de trucs à dire là-dessus. Donc en tout cas, donc The Grey, film que je trouve fantastique, mais hyper, enfin film vraiment ouais sec, très à l'eau, c'est tout ça survival, mais en le dernier bon survival, hein, je pense qu'il est sorti
très formaliste
sur les écrans, assez formaliste, assez ouais, il y a avec une peut-être tendance à l'abstraction comme des fois chez Mann dont tu parlais, mais voilà film que je trouve génial, mais partons sur les choses sérieuses.
Donc Cyprien de David.
Salut
Charon.
Antonin, moi je propose Cyprien à la vente, à la braderie Robidoux. Je pense que c'est le film à acheter.
Encore sous blister.
Même
hein.
Si tu l'as sous ton rayon, est-ce que tu es capable de me citer le nom du réalisateur?
Absolument pas.
Vraiment une très mauvaise vendeuse.
C'est quand même un film avec
Catherine. Il est sous blister, il est encore tout
et
neuf.
C'est quand même un film avec Catherine Deneuve. Hein.
Il y a Catherine Deneuve, il y a Laurent Stoker de la comédie française.
Vincent Lozania, toujours dans les bons cours. Gérald, c'est à ça qu'on reconnaît un bon film. Il y a Vincent Lozania, Elisa Toati, Léa Drucker, avant qu'elle fasse des films genre à César et Palme d'Or, là. Et Elysée ouais. Moon, bien sûr, dans le rôle titre et le rôle principal. Et le gros Mouloud, qui est toujours un genre de cancer.
C'est Mouloud ?
Oui, c'est pas lui.
C'est qui ça ? Mouloud Achour ?
Mouloud Achour, ouais.
Ah bon, c'est lui ?
Ouais, ouais, ouais.
Ah d'accord.
Toujours dans les mauvais coups. Hein.
Ok. Mmh. Ah, c'est Mouloud Achour. Ouais, ok, ouais, bon, ouais. Alors tu l'as vu ou quoi, toi, Thomas ?
Oui, je l'ai vu, mais il y a assez longtemps. Parce que je vais être un peu radical, mais c'est vraiment une bonne grosse merde. Hein. Hein, je n'ai pas peur de dire les termes, qui est en fait une comédie sur un personnage que Elysée Moon avait sur scène, et je crois peut-être dans les petites annonces qu'ils avaient avec Dubosc. Sur en fait un personnage de geek ultra informatique, fan de culture pop et bien évidemment puceau, comme tous les geeks qui se respectent, qui a 35 ans, qui a des boutons, qui s'habille mal chez genre Kiabi et puis Jiffy. Même si Jiffy font pas de fringues, si Jiffy faisait des fringues, ça serait les fringues de Cyprien. Et donc c'est une comédie autour de ces deux, toute une bande de supra geeks, supra nerds, excessivement méprisants en fait sur toute une sous-culture pour laquelle j'ai. Par ailleurs, pas non plus énormément beaucoup
mais
de
après,
respect,
qu'est-ce
mais qui est vraiment dégueulasse. C'est-à-dire que, à la fois, le film est méprisant, insultant, misogyne, raciste, et il est pas drôle.
Bah, ça, c'est ça qui est le plus criminel, hein, je pense.
Oui.
Bah, mais ceci dit, je me rappelle.
Le principe d'une comédie française, c'est que ça fonctionne souvent sous des ressorts qui sont déplorables et dégueulasses, mais qui, de temps en temps, arrivent à t'arracher un
mais,
sourire.
Mais là, moi, je me rappelle avoir entendu une interview de Elysée Moon, mais pas inintéressante, sur ce film-là, parce qu'en fait, il disait que c'est un film qui avait 5 ans d'avance. Et ceci dit, il n'a pas totalement tort. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment un film qui a un des films qui a vraiment mis le personnage du geek au premier plan, chose qui était vraiment pas non plus truc très très répandu à cette époque-là. Et bon, bah lui justifiait l'insuccès de son film là-dessus. Bon, moi j'ai pas vu le film, mais
fait,
je pense
qu'il était avant-gardiste.
Voilà.
Ça me paraît quand même un peu tiré par les cheveux.
Hein. Exactement, complètement tiré par les cheveux. Mais pour le coup.
Bon, j'attends de voir et je te l'achèterai, Anida.
Qu'est-ce que c'est ? C'était le babyphone de Beau.
Oui, je l'ai retrouvé à la cave. Je m'en sers comme Tokiwoki. Et si c'était eux qu'on capte ?
Non, non, c'est pas ça.
Mais avant, on n'entendait rien.
Morgane, ces signes sont fabriqués de toutes pièces par une bande de tarés qui sont pas foutus d'avoir des copines. Ils ont la trentaine, ils s'inventent plein de codes entre eux. Ils décortiquent la mythologie et montent des sociétés secrètes où d'autres tarés qui n'ont pas de copines peuvent les rejoindre. Ils font ces conneries pour se persuader qu'ils sont formidables. C'est un canular. Des tarés comme eux l'ont fait il y a 20 ans et aujourd'hui, ils remettent ça.
C'est rien, c'est de la friture. Monte le son.
C'est un code.
Pourquoi ils ont pas de copines ?